France Musique. Étonnez-moi, Benoît.
Et pour bien commencer cette nouvelle année, j'accueille Jean-François Kahn. Il s'est battu pour la gloire de l'opérette, de l'opéra comique et de la chanson française. Homme d'action et d'analyse, il revient sur ses combats dans un essai intitulé « Réflexion sur mon échec ». Nous y reviendrons en musique avec Offenbach, Maurice Yvain et les autres. En fin d'émission, hommage à Léo Marjan qui nous a quittés le 18 décembre et que j'avais rencontré pour ses 100 ans. Tel sera le programme de cette matinée d'hiver pour nous, parce que là-bas, l'été vient juste de commencer.
Meu consolo é você, meu grande amor, eu explico porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor, eu peço desculpa a você.
Meu consolo é você, meu grande amor, eu explico porquê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor, eu peço desculpa a você.
Mas se por acaso você não me perdoar, juro por Deus que não vou me conformar. Pois a minha vida sem você é um horror. Eu sofro noite e dia e você sabe por quê. Meu consolo é você. Sabe por quê? Meu consolo é você.
Meu consolo é você, meu grande amor, eu explico por quê. Sem você sofro muito, não posso viver. Sem você mais aumenta o meu padecer. Tudo fiz sem querer, meu grande amor, eu peço desculpa a você.
Un peu d'air chaud qui nous vient tout droit, vous l'avez compris, de Rio de Janeiro, Meu Consolo e Voce, c'est le nom de cette samba chantée par Orlando Silva. C'était un petit peu avant la guerre, à cette époque où la France elle-même aimait beaucoup s'inspirer de la musique brésilienne.
Thank you.
Christian Ivaldi et Noël Lee dans ce mouvement final de Scaramouche de Darius Milhaud, intitulé justement Brasileira. Vous savez que le grand Darius avait été très marqué par les années qu'il avait passées au Brésil pendant la Première Guerre mondiale, si bien que dans toute sa musique, les rythmes provençaux se mêlent aux rythmes brésiliens.
Benoît Dutertre, Étonnez-moi Benoît, France Musique.
Mais sans plus attendre, nous avons rendez-vous avec mon invité qui est un véritable chevalier de l'opérette et de la musique légère. Il s'est battu beaucoup pour ses causes et aussi pour celles de l'opéra français, avec certains succès, certains échecs sans doute aussi. D'ailleurs, son nouveau livre est titré justement « Réflexion sur mon échec ». Il revient sur tous ses combats de façon passionnante. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Jean-François Kahn.
En Poitou, en Beauce et je ne sais où, je suis propriétaire.
À l'opposé, moi de vous, je l'avoue, j'ai mon bien un peu partout dans les affaires.
Ah, ce n'est pas une sinécure que de faire payer tous ces loyers.
Ni de s'occuper, je vous l'assure, et des émissions, de ces actions.
On peut le dire ici, quel tourment, quel souci d'être riche en ce moment-ci.
Moi des coupons,
des tas de terre,
des tas de coupons.
J'ai tant de terre que je m'y perds.
C'est comme moi dans mes coupons.
Oh, quelle affaire,
quelle obsession
d'avoir des terres
et des coupons.
Je gère mes terres dans mes terres chères
et moi je coupe mes coupons.
Vous comprenez que lorsqu'on en attend, assez de temps pour visiter ces fermes.
Comme ayant trop de valeur, on ne peut regarder chaque jour si le marché est ferme.
Je fais lotir tous mes domaines, mes bois de boulot, par petits lots.
Moi vérifier chaque semaine les numéros de mes gros lots.
Heureux les indigents, heureux les pauvres gens qui n'ont pas ces ennuis d'argent.
J'ai des terres,
moi des coupons,
des tas de terres,
des tas de coupons.
J'ai tant de terres que je m'y perds.
C'est comme moi dans mes coupons.
Oh, quelle affaire,
quelle obsession
d'avoir des terres
et des coupons.
Je gère mes terres dans mes terres chères
et moi je coupe mes coupons. Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas, chère comtesse, les soucis, les tracas qu'elle apporte sans cesse.
Ceux qui font cas de la richesse ne savent pas quelle tristesse, quel souci, quel tracas elle apporte ici-bas. Ah, les millions, quelle misère!
Quel pauvre et quel triste emploi!
Au fond que d'être millionnaire!
Comme vous et comme moi.
Ah, les millions, quelle misère!
Quel pauvre et quel triste emploi! Au fond que d'être millionnaire! Comme vous et comme moi. Ah, pour avoir moins à faire, je donnerai ma chair.
Ah, pour avoir moins à faire, je donnerai mon bon. Toutes mes terres, tous mes coupons, toutes mes terres, tous vos coupons.
Toutes mes terres, tous mes coupons,
toutes mes terres, tous mes coupons.
Bonjour Jean-François Kahn.
Bonjour.
Votre dernier livre, ça s'appelle « Réflexion sur mon échec ». Et moi, j'ai trouvé que cette chanson, elle illustre à la fois votre échec et votre réussite. On commence par la réussite parce que ça, c'était Maurice Yvain, oui. Compositeur que vous adorez.
Ah oui.
Et j'ai l'impression qu'il est un petit peu moins méconnu aujourd'hui, grâce à vous et à d'autres, qu'il ne l'était il y a 20 ou 30 ans.
Oui, on s'est beaucoup battu pour faire redécouvrir d'abord l'opérette de qualité, je dis bien de qualité,
oui.
Et en particulier ces opérettes d'entre-deux-guerres, voilà, de Maurice Ima. Vous avez participé aussi d'ailleurs. Je crois que cette campagne a réussi parce que on a rejoué Tabouche, on a rejoué Pensons la bouche, on a rejoué Là-haut. Il y a eu un film quand même.
D'Alain René
à partir de Maurice Ima. Parce que c'est de l'opérette, mais c'est d'une qualité musicale.
Oui.
Les quatuors, les trios. Alors en même temps, c'est l'auteur de Mon homme, c'est-à-dire la chanson emblématique que les Américains croient d'ailleurs que.
Que c'est une chanson américaine qui s'appelle My Man,
américaine,
qui a été créée dans les clubs de jazz.
Voilà, dans la vie, il ne faut pas s'en faire, c'est lui qui fait bon.
Et là, ça a eu beaucoup, beaucoup de succès il y a quelques années quand ça a été remonté.
Et les qualités, c'est même très sophistiqué souvent, les ensembles dans Maurice Ima. Non, ça mérite vraiment d'être de plus en plus défendu.
Tabouche, qui a été monté également par les Brigands avec un succès fou un peu partout en France. Voilà, donc une réussite quand même de Jean-François Kahn, en tout cas à laquelle il a contribué. Alors l'échec, c'est que cette chanson, au fond, elle dénonçait déjà un peu la financiarisation de l'économie, les terres, les coupons, l'immobilier, etc. C'est des combats que vous menez depuis des années et des années pour attirer, au fond, l'attention sur toutes les catastrophes liées à ces phénomènes. Et comme vous l'expliquez dans votre livre « Réflexion sur mon échec », vous avez eu beau alerter, parler, dénoncer, ça n'a absolument rien changé aux choses.
Oui, l'échec n'est pas vraiment là-dessus, parce qu'en revanche, je suis loin d'être le seul à avoir essayé de dénoncer les dérives d'un certain néolibéralisme. Encore que, là où il y a un vrai échec, c'est que j'ai essayé de montrer en quoi, entre libéralisme et néolibéralisme, c'est pas la même chose.
Oui, c'est vrai.
Que le néolibéralisme est au libéralisme, ce que le stalinisme est au socialisme démocratique, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est la négation de ce dont il se réclame. J'ai essayé de montrer ça, ce qui est évident, évident. Ouais, ouais. Mais non seulement j'ai pas réussi à imposer cette idée, mais quand j'en parle à des gens dans des conférences, tout le monde comprend ça, ça leur paraît évident, mais aussitôt qu'on arrive au sommet, c'est-à-dire les journalistes, le monde des décideurs, ils ne comprennent même pas ce que je dis.
Voilà, et c'est ça qui est passionnant d'ailleurs dans ce livre, parce que vous expliquez en fait que vous avez échoué, mais qu'au fond, vous avez eu très souvent raison, avec d'autres d'ailleurs, dans vos critiques, mais qu'elles ne portent pas, qu'elles ne se traduisent pas dans les faits. Et c'est ça votre échec, d'une certaine façon.
Parce que quand on a raison, enfin, je ne vais pas dire que j'ai raison à 100%, il m'est arrivé de me tromper, je le dis d'ailleurs, ce livre. Parce qu'il y a une dame qui dit, ah, je voudrais faire un livre avec vous, un livre d'entretien, un peu votre réussite journalistique. Bon. Et, d'accord, j'étais pas chaud, je finis par accepter, mais du coup, je réfléchis et je repasse le film. J'ai dit, mais quelle réussite, c'est-à-dire, d'accord, j'ai fait des journaux, etc., mais ça ne vous rend pas plus heureux. Hein, ouais, c'est, dire, ma réussite personnelle, c'est personnel. Mais tout ce pourquoi je me suis battu, que je me suis investi, que j'ai essayé de faire changer dans la presse, dans le journalisme, dans la politique, etc., non, j'ai rien réussi, c'est-à-dire rien.
Bon.
Mais en même temps, si je repasse le film également, ce que j'ai défendu, ce que j'ai dit, les positions que j'ai prises, et ensuite les événements, 90% les événements m'ont donné raison. Je dis ça d'autant plus que les gens sont furieux quand on dit ça et que ça met en colère quand on dit j'ai eu raison. Je vous dis pas à quel point vous faites mal voir. Mais ils ont qu'à montrer que j'avais eu tort. Ils ont qu'à relire tout ce que j'ai écrit. Et dire, le mec s'est trompé tout le temps. Voilà. Bah non, très bien. Mais le problème, c'est que si on échoue alors qu'on a eu raison, d'abord, ça pose un problème, faut s'interroger. Ouais. Et puis, j'y suis forcément pour quelque chose. Peut-être le système y est pour quelque chose, mais moi aussi, j'y suis pour quelque chose. Donc, ça interpelle, et ça interpelle douloureusement.
Mais c'est d'autant plus paradoxal, Jean-François Kahn, qu'on ne peut pas dire que vous soyez une voix qu'on n'entende pas, un type qui protesterait tout seul dans l'ombre et qui n'aurait pas l'accès, justement, aux grandes sources médiatiques, etc. C'est le contraire, vous avez toujours été quelqu'un qu'on a entendu.
Enfin, c'est plus compliqué que ça, parce que, par exemple, je n'ai jamais rêvé d'être patron de presse dans ma vie.
Vous l'expliquez.
C'est mon objectif dans la vie. Et pourquoi j'ai créé des journaux? Pourquoi j'ai créé l'événement du jeudi? Pourquoi j'ai créé Marianne? Parce que, tout simplement, il n'y avait aucun journal où je pouvais m'exprimer, c'est-à-dire exprimer ma différence. C'est-à-dire, dans la mesure où je ne peux pas être classé complètement dans la gauche telle qu'elle est, et que je ne suis pas de droite pour autant, il n'y a pas d'espace, si vous voulez. Et donc, j'ai pu m'exprimer parce que j'ai créé les journaux pour m'exprimer. Et c'est pour ça que je les ai créés.
Enfin, c'est des journaux qu'on a vus partout, qu'on a lus, dont les unes ont fait débat, et néanmoins, ça n'a rien changé.
Non.
Voilà, c'est un
peu... Ah, mais à terme, peut-être. Le problème, c'est que je ne crois pas à la métapsychose, donc je n'aurai pas le plaisir de voir les résultats de mes combats après ma mort.
Alors on va revenir à tout ça, Jean-François Kahn, mais en musique et surtout en parlant de musique, puisqu'on sait que vous êtes depuis toujours, et vous en l'évoquez d'ailleurs dans ce livre, un passionné de chansons, d'opéra, d'opérettes. Bah, on va remonter dans le temps tout simplement avec ce petit air québécois chanté ici par Marie Dubas. Dans une chanson traditionnelle canadienne. Alors, chanson enregistrée en 1932, mais apparemment, Jean-François Kahn, vous avez entendu ça tout petit pendant la guerre.
Mes parents m'avaient caché dans un village d'Indre-et-Loire qui s'appelait le Petit Pressigny,
ouais.
Parce que dans la famille, il y a toute une fraction qui est d'origine juive. Et d'autre
du côté de votre père. Hein, c'est
du côté de mon père, et d'autre part, mon père était rentré dans le maquis.
Oui.
Voilà, donc, il fallait nous cacher, donc je suis resté là. Les premiers airs que j'ai écouté et que j'ai chanté, parce que ça, c'est parce que j'ai chanté. Je devais avoir 3 ans, 4 ans, et donc c'est le premier air que j'ai chanté. Et alors...
Vous étiez à la radio ou sur un 78 tours
ou... Je sais plus, c'était à la radio ou à 78 tours avec
un pavillon,
ouais. Et un pavillon, etc. Et les deux autres chansons dont je me souviens très bien que j'ai chanté quand j'avais 4 ans, l'un, mais je ne savais pas, c'était en fait un opéra. Mais je ne savais pas que c'était un opéra. C'était ouais. « Oh Magali, ma bien-aimée ». J'avais entendu ça.
« Oh
Magali, ma bien-aimée, va dans Toulon, sous l'art ». Mais alors là, je chantais ça. Et l'autre, c'est une chanson cochonne, mais je ne savais pas qu'elle était cochonne. C'est « Oh, oh, dis chérie, dis joue-moi-en de la trompette ». Vous connaissez cette chanson?
Ah non, celle-là, je la connaissais
ça,
pas.
Ça, je vous la conseille.
Notre réalisatrice Christine Amado qui est toute surprise que je ne connaisse pas cette chanson. Bon, alors, enfin... En tout cas, voilà, ça c'est votre enfance musicale.
Ça, et puis, et autrement, il y a le beau Danube bleu,
ouais.
Et dans la rue de nos amours, de
Par Damien.
Voilà, c'est ce qui restait dans ma tête de ce que j'écoutais entre 3 ans et 5 ans.
Alors d'ailleurs, vous qui aimez bien les paradoxes et la complexité des choses, hein, vous rappelez dans ce livre d'entretien que si vous étiez caché du fait de l'origine juive du côté paternel, il y avait aussi un côté pétainiste dans la famille du côté de votre grand-mère.
Pétini n'était pas pétiniste, il était collabo.
Carrément,
était,
pardon, non, je ne sais pas dire.
On peut même pas dire collabo, c'est même plus compliqué que ça. C'est que elle était d'origine suisse-allemande, et ma grand-mère, que j'ai pas connue, ouais. Elle était franchement nazie, mais dès des années 30. Hein,
ouais,
elle était fasciste, elle était antisémite, elle était raciste. Et moi, je ne l'ai jamais connue. Et pourquoi j'ai jamais connu? Vous savez pourquoi j'ai jamais connu? Parce qu'elle ne voulait pas connaître des enfants qui avaient un nom juif.
C'est extraordinaire, quand même. Et donc, puis, en plus, elle est morte rapidement, à la fin de la guerre.
Ben, elle est morte parce que, alors ça, c'est une histoire. On croirait que je l'ai inventé. C'est que elle a été l'amant d'un officier allemand pendant la guerre.
Comme il se doit.
Ce qui est normal. Et quand les Allemands ont fui en 44 de Paris, elle l'a suivi et elle a mis tous ses bijoux, parce qu'elle avait amassé un peu des bijoux de la fortune, tout son argent des fortunes dans une valise pour le suivre. Le lendemain, les résistants sont venus pour la fusiller. En l'occurrence, elle aurait été fusillée sur place. Bon, elle s'est sauvée. Mais au cours de la fuite, son amant l'a assassinée d'une balle dans la tête pour lui voler ses bijoux.
Voilà.
Donc, grâce à ça, elle a été tuée par les nazis. J'ai une grand-mère qui est la victime du totalitarisme nazi.
Tout en étant nazi. Vous avez pris conscience d'ailleurs de tout cet aspect de l'histoire qui vous touchait directement à travers votre famille
Non, pas du tout. La seule chose, c'est quand j'étais tout petit, on allait dans la maison qu'avait quittée ma grand-mère, dans la banlieue parisienne, et je les voyais toujours creuser. Je ne sais pas pourquoi ils creusaient. En fait, ils creusaient parce qu'ils cherchaient la valise avant de savoir.
La valise de bijoux, voilà. Et vous avez retrouvé donc votre père au lendemain de la guerre?
Il venait me voir quelquefois, en vélo, il venait me voir avec un brassard FFI.
Ouais.
Non, de temps en temps je le voyais, mais rarement. Mais...
Alors, on ne peut pas dire qu'il vous ait d'ailleurs, votre père, marqué vraiment par ses goûts musicaux. Enfin, il vous aurait plutôt marqué par la contradiction de ses goûts musicaux. Parce que vous m'avez dit que lui, en fait, non seulement l'opérette, l'opéra, Mireille, la chanson, ce n'était pas du tout ce qu'il aimait. Lui, il avait une conception très sérieuse de la musique.
C'est compliqué, parce qu'en même temps, à moi et à mes frères, mes deux frères, dont Axel, il m'a apporté beaucoup en musique.
Ouais.
Par exemple, c'est vrai, ma découverte des derniers quatuors de Beethoven, des concertos brandebourgeois, du clavecin bien tempéré, de que sais-je.
C'est la base de la culture musicale.
Mais c'est vrai, en même temps, alors il me doit, d'une façon directe, c'est-à-dire ce qui m'a appris, ce qui m'a fait écouter, ce qui m'a fait aimer, et me doit aussi de façon indirecte, en réaction. Parce que c'était une époque d'un intellectualisme, vous savez, absolument délirant.
Parce que votre père était philosophe. Hein,
voilà, et mon père était lui-même philosophe. Et alors pour lui, la musique s'arrêtait à Monteverdi, et elle recommençait à Schoenberg.
Voilà.
Entre les deux, en gros, c'était de l'opérette. Alors, il y avait quelques exceptions, qui étaient en effet la Grande Fugue, le clavecin bien tempéré, les derniers quatuors.
Oui, il était boulésien, en somme.
Et en réaction, j'ai trouvé ça tellement étouffant, qu'en réaction, je me suis mis à aimer l'opérette, la chansonnette, etc.
Voilà.
Et en plus...
Vous en avez parlé avec lui après des opérettes que vous aimiez ou des chansonnettes?
Non, mais il admettait tout à fait que j'aime l'opérette. S'il y a quelqu'un qui était tolérant, c'était bien lui. Mais...
Il y a encore des chansons là, qui vous ont marqué. Il y en a une qu'on avait déjà évoquée ici, on peut le rappeler. J'adore le titre, On prend le café au lait au lit, de Pierre Dudan. Ça, c'était...
Ça avait été écrit avant-guerre d'ailleurs.
Ouais.
Mais il se trouve que naturellement, en 1944-1945, tout à coup, les gens ont pu reprendre un café au lait au lit. Et du coup, cette chanson est devenue très célèbre.
Voilà. Et puis une autre, alors que j'ai choisi parce qu'on l'avait pas passé encore, c'est On chante dans mon quartier.
J'adore. Il y avait une chanson qui m'avait marqué à l'époque aussi, à la Libération, c'est Un monsieur attendait, vous connaissez?
Oui.
Un monsieur attendait au café du palais la femme qu'il aimait. Enfin bref, ils s'étaient trompés de café, ils avaient un rendez-vous, mais c'était pas dans le même café. J'aimais bien cette chanson, et celle-là, oui.
Elle est Francis Blanche, il faut préciser.
Elle est Francis Blanche. Elle a été incroyablement célèbre, cette chanson.
Dans mon quartier, vous y verrez comme on a le cœur gai. Vous entendrez les maisons murmurer les chansons. Le menuisier chante en menuisant, le cordonnier chante en cordonnant, et le sergent de ville sur son sifflet joue un menuet. On chante dans mon quartier, le jour tout entier. On chante dès le matin, quand un air s'éteint, un autre commence, sur un brin de valse lente, partout des caves au grenier, tout le jour on chantait dans mon quartier. Plum, plum, voilà, voilà ce qu'on chantait, voilà ce qu'on chante. Et quand le facteur apporte en chantant des faire-part de mariage, on entend par tous les jeunes et les vieux chanter à qui mieux mieux. Les fiancés font chanter les oiseaux et le vitrier qui songe au carreau qu'il casse son chez eux plus tard, mais ça chante et sans retard. Chante dans mon quartier le jour tout entier de vagues romances. On chante dès le matin quand un air s'éteint, un autre commence. Sur un brin de valse lente, tout air sera plus léger. Partout des caves au grenier, tout le jour on chante dans mon quartier. Plum, plum, ala,
et toute l'atmosphère des balles de la libération.
C'est tout
hein,
ça, c'est tout, tout l'année 40-47, l'espoir, l'espérance, la libération.
Voilà, là, c'était l'été 46, et c'est de Tohama qui chantait.
Et les paroles sont de Francis Blanche. Oui. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de consacrer une émission à Francis Blanche.
Avec, il faudrait faire. On avait déjà fait une émission sur Francis Blanche, mais c'est vrai que.
Ah non, mais c'est incroyable parce que.
Il y a l'humorisme, mais il n'y a pas que l'humoriste.
Il y a des chansons humoristiques qui sont premières. Il y a le général à vendre.
Oui, bien sûr.
Bon, vous avez. Mais qu'est-ce que t'as fait du carton à chapeau? Vous connaissez pas? Mais qu'est-ce que t'as fait du carton à chapeau? C'est formidable comme chanson. Ça, c'est des chansons drôles. C'est lui qui a fait les paroles du prisonnier de la tour. Je crois que c'est Piaf qui l'a chanté. De la chanson adaptée du russe Pleine, Main Pleine. C'est lui qui a fait l'adaptation française. C'est lui qui a fait le bidon de lait. Le bidon de l'eau, bidon de lait. Puis alors surtout, c'est lui avec Pierre Dac qui a fait la passe à l'âge sur l'air de la 5e symphonie de Beethoven et tout ça, et les barbus là.
Oui, il y avait
de la barbe, t'as de la barbe,
fait,
vous savez, sur l'air de la... c'est incroyable, c'est un génie de la création chansonnière.
Enfin, on fera une émission d'ailleurs sur lui parce que son fils, je crois, a écrit un livre justement et on fera un petit jour un spécial Francis Blanche. Mais alors revenons justement à votre goût.
Moi, j'ai fait une émission sur rire, le rire un jour avec lui.
Oui.
Quand je viens
avec lui.
Avec lui, oui.
Ah,
parce,
oui.
Parce que je faisais une émission à Europe numéro 1 tous les matins et lui faisait l'émission d'après. Et donc je prenais mon petit déjeuner tous les jours avec lui pendant un an et demi. Et il arrivait en pantoufles parce qu'après il allait se recoucher. et donc un jour je lui ai demandé qu'est-ce que vous pensez du rire et il a eu cette réponse. Il dit quand on me pose cette question, je n'y suis pour Bertrand.
Il était aussi loufoque au cinéma.
Non, il était complètement sinistre.
Sinistre. Ah oui, c'est drôle. En tout cas, Jean-François Kahn, bon, voilà, dans vos jeunes années parisiennes, avant de devenir un célèbre journaliste, j'imagine que vous avez un petit peu suivi ce qui se passait dans le monde de la chanson. Vous avez été un peu dans les cabarets, la rive gauche, comme on disait à l'époque, dans les années.
J'ai vu Marie Dubas, par exemple.
Ah oui.
Ouais. J'étais tout jeune. Oui, j'ai vu Piaf, j'ai vu, alors là j'étais plus vieux, mais je me souviens d'avoir vu le début de Brassens au cabaret.
Ah oui, quand même.
Il suait à grosses gouttes, il était gêné, empoté, enfin c'était très 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 important. Il était en deuxième partie de Clay.
Oui, Philippe Clay, bien
Philippe
sûr,
Clay.
Grande vedette de l'époque.
J'ai vu beaucoup des...
Alors, vous m'aviez dit que, quand on en parlait de tout ça, que vous aviez organisé un des premiers concerts de Jacques Brel.
Oui, je crois que j'ai organisé des premiers concerts de Jacques Brel. J'ai été malade quand j'étais jeune à un moment. Une sorte de tuberculose. Maintenant, il n'y a plus de tuberculose, mais à l'époque, ça existait encore.
Il y avait des sanatoriums partout.
Donc, sanatorium, etc. Et comme c'était un sanatorium lié aux étudiants, parce que j'étais étudiant, on élisait à des légions loisirs. Et j'ai été élu délégué aux loisirs. Alors, arrivé Noël, il fallait imaginer un spectacle. L'année d'avant, ils avaient eu des bars de bretons, ils s'en étaient pas remis. Donc, il fallait trouver quelque chose d'autre. Et j'avais écouté une chanson à la radio. Et ça m'avait vraiment frappé, l'énergie, le rythme. C'était au printemps, et mon cœur et ton cœur sont repeints en vin blanc. C'est bon. Mais j'avais pas bien retenu le nom. Il y avait quelqu'un à l'étage des filles, Perrette Souplex.
Que j'ai reçu ici, la fille de Raymond Souplex.
La fille de Raymond Souplex, l'inspecteur Bourrel. Voilà. Et je savais que donc, elle connaissait le milieu du show du business. Spectacle. Et donc, je vais la voir. J'ai dit, écoute, j'ai écouté quelqu'un, ça m'a plu, au printemps, je connais pas, elle dit, je connais très bien, ça va, Jacques Brel. Elle dit, j'aimerais bien qu'on puisse te joindre, je sais pas, s'il pouvait nous venir, c'est ce qu'il faut pour nous, pour des gens malades. Elle me dit, mais écoute, ça tombe bien, parce que c'est le petit ami de ma copine. Suzanne Gabriello, parce qu'à l'époque ils avaient fait un trio avec Suzanne Gabriello et Dorin, hein, ouais. C'est ça.
Les filles à papa.
Donc c'est ma copine, donc on peut le joindre. Donc elle me donne le numéro, on l'appelle, j'appelle Brel et j'ai dit, écoutez monsieur, je suis déjeuné, vous savez, on est des étudiants malades, on n'a pas d'argent pour payer, mais on aimerait bien Noël. Enfin bref, et il accepte. Finalement il accepte et il vient. Et il fait un concert de 10 chansons, disons. Ah ouais. Mais je crois qu'à l'époque, il était dans des cabarets, mais il n'avait jamais fait un concert de 10, 12 chansons. Donc je suis sans peut-être un des premiers organisateurs d'un concert Brel.
Alors ça on va compter ça plutôt dans la colonne de vos réussites, puisque je rappelle votre dernier livre.
Mais enfin, je suis pour rien.
Mon échec, vous n'y êtes pour rien, on est d'accord. Et par contre, il y a des, on va pas dire des échecs, mais peut-être un peu des déceptions, parce qu'il y a des chanteurs que vous avez beaucoup soutenus et puis qui n'ont pas percé autant que vous auriez aimé. Je pense par exemple à Maurice Fanon, à Henri Tachant. Là, il y a un peu des combats qui n'ont pas été vraiment conclus par le succès. Alors, que méritaient ces artistes.
Tachant, il a tout. Ses textes sont tout à fait remarquables. Son inspiration est originale, osée. Il a une présence de scène extraordinaire et une voix qui porte. Bon, il avait tout bon. C'était en pleine vague du yéyé. J'ai vraiment beaucoup fait pour l'imposer. Ouais. Mais il n'y a pas que moi, il y a beaucoup de gens. Par exemple, toute l'équipe de Charlie Hebdo, ouais, c'était leur chanteur préféré. Ils ont, ouais, fait beaucoup pour essayer de le pousser. On n'est jamais arrivé totalement à le pousser. Ça a, voilà, été un échec, on n'y est pas arrivé.
C'était, on ne peut pas dire qu'il soit inconnu non plus.
Il faut voir la chape de plomb qu'a, ouais, été cette, ouais, période yéyé. Ouais. C'était terrible. Ouais. Donc on n'est pas arrivé. Pour Fanon, c'est différent, parce que tout le monde admet que Fanon est un des grands paroliers de notre époque. Mais à mon avis, c'est un très grand parolier. C'est-à-dire qu'il mérite... Alors c'est vrai que lui, en revanche, n'était pas très bon sur scène. Hein. Ouais. Et c'est surtout chanté par d'autres que ça prend toute sa valeur. Mais il devrait être reconnu aujourd'hui comme parmi les plus grands, Brel, Brassens. Hein. Il n'est pas tout à fait à ce... Mais l'écharpe, tu sais, si je porte à mon cou en souvenir de toi, c'est quand même une des plus belles choses qu'on ait écrites.
Vous avez fait beaucoup d'émissions sur la chanson, hein. Ça a toujours, ouais, été parallèle à votre activité journalistique, disons plus politique. Il y a toujours eu d'un côté la politique, de l'autre la musique et la chanson.
Histoire et philosophie, politique, chanson. Et musique. Musique d'ailleurs.
Le résumé de Jean-François Kahn. Et si on
que j'ai fait une émission sur France Musique pendant. Enfin, une émission, pas longtemps, quelques semaines. Pour essayer de faire redécouvrir les opéras oubliés français du 19e.
Ça, on va y venir. Mais on va d'abord écouter Henri Tachant. Bah, j'ai choisi L'amour et l'amitié. Ça vous va ? Oui.
Surtout qu'il y a une phrase magnifique.
Ouais.
Vous verrez.
Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Un simple page ou un pucier où deux animaux se dépensent. Et quand s'installe la tendresse entre nos corps qui s'apprivoisent, que platoniquement je caresse de mes yeux ta bouche framboise. Alors l'amour et l'amitié n'est-ce pas la même romance? Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, ils ont barbelé des frontières. Nos sentiments étiquetés, et si on aime trop sa mère, ou ou bien son pote, ou bien son chien, il paraît qu'on est en nos troubles, qu'on est cliniquement freudien, ou inverti, ou agent double. Alors que l'amour et l'amitié ont la même gueule d'innocence. Entre l'amour et l'amitié, dites-moi donc la différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami. Entre l'amour et l'amitié, la pudeur a forgé sa chaîne. À la barbe du monde entier et de ses gros rires gras. Bon an, mal an, les deux compagnes se dédoublent ou bien s'entremêlent. Comme sur la haute montagne, le ciel et la neige éternelle. Entre l'amour et l'amitié se cache un petit bout d'enfance. Entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. Je t'aime, mon amour, mon petit. Je t'aime, mon amour, mon ami.
Henri Tachant, 1974, entre l'amour et l'amitié, il n'y a qu'un lit de différence. C'est vrai, c'est bien
c'est
trouvé.
C'est une phrase formidable.
Oui, oui, très belle phrase.
Alors, cette chanson est assez langoureuse, mais il a fait aussi des chansons très, très rythmées. Très rythmées. Et alors, je ne sais pas si je peux le dire.
Allons-y.
Mais il a fait aussi une chanson qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelait « Fais une pipe à Pépé, fais une lèche à Mémé ».
Ah oui, Henri Tachant aussi.
Ouais,
on fera tout ça un de ces jours avec lui, j'espère, parce qu'il y a longtemps que je voudrais l'inviter pour évoquer cette belle carrière que vous avez
en tout cas beaucoup vraiment
soutenu, Jean-François Kahn, dans vos activités musicales, on le disait à l'instant. Un autre paradoxe d'ailleurs que j'ai vu dans ce livre, Réflexion sur mon échec, ce livre d'entretien, vous le disiez tout à l'heure, c'est que en fait, vous n'avez jamais eu vraiment la vocation du journalisme. Vous qui êtes considéré comme un des grands journalistes français de votre génération, c'était pas vraiment quelque chose que vous souhaitiez faire absolument et qui vous passionnait a priori.
Non, j'étais professeur, j'étais très jeune, donc c'était très dur.
Ouais.
Et c'est vrai que j'ai eu tout à coup l'occasion de rentrer dans un journal et j'ai eu une réaction de fuite. Je dis souvent qu'il m'est arrivé d'être courageux, je crois, dans ma vie, ouais, ça m'est arrivé, mais on n'est pas courageux à 100% et tout le temps.
Et de prendre des positions.
Et là, ce jour-là, j'ai pas été courageux. C'est-à-dire que j'ai fui l'enseignement et j'ai profité de cette occasion de faire du journalisme pour de mauvaises raisons. Alors, oui.
Vous pensez que si vous aviez été plus courageux, vous seriez devenu un grand professeur de philosophie, des idées
ou si c'était d'histoire d'abord, et puis je ne sais pas si je serais devenu un grand professeur, mais voilà comment je suis venu. C'était pas, en effet, c'était pas le rêve de ma vie.
C'était pas le rêve de votre vie. Et vous évoquez d'ailleurs, c'est très joli dans ce livre, les patrons de presse et la transformation, on peut dire aussi, des patrons de presse d'une génération à l'autre, parce que vous avez commencé avec des gens qui avaient encore fait carrière avant-guerre, hein, à Paris Presse notamment.
Ouais. J'évoque les présidents que j'ai connus.
Oui, il y a les présidents de la République et les patrons de presse.
Y compris Coty, d'ailleurs.
Y compris René Coty.
De Gaulle. Moi, je les ai pratiquement tous connus. Donc, et les grands patrons de presse que j'ai connus. Donc, je les évoque un peu, en effet.
Avec des coups de chapeau, hein, notre ami Philippe Tesson, ou encore le fondateur du Nouvel Obs, Claude Perdriel.
Tesson, j'ai des désaccords énormes avec Tesson, considérables, mais l'homme est vraiment attachant. L'homme a des vraies qualités, puis c'est un vrai libéral. C'est surtout cette cohérence-là. Il est économiquement de la droite libérale, mais il pousse jusqu'au bout le libéralisme.
Voilà, à tel point qu'il vous avait confié la direction des nouvelles littéraires, où vous attaquiez les positions de Tesson dans le journal qui lui appartenait.
Oui, alors moi, j'ai arrêté, j'ai dit, écoute, je peux pas continuer à t'attaquer et à te critiquer avec ton argent. Mais lui, ça le dérangeait pas du tout.
Voilà, c'est ça.
C'est moi que ça dérangeait.
Le vrai libéralisme. Vous parlez aussi de ce qui est pour vous la chute quand même, vous disiez, de Gaulle à Sarkozy, Hollande, la chute du niveau de la classe politique française.
Non, c'est pas tout à fait ça. Je suis convaincu qu'il y a, dans la classe politique française des gens de qualité, remarquables, intéressants. Non, c'est pas. C'est le fait que les plus médiocres sont promus. C'est-à-dire, moi, je suis toujours frappé par le fait que le président du groupe socialiste, il s'appelle Leroux. Hein, vous voyez qui c'est. Ouais. Bah, il a été ministre de l'Intérieur maintenant. Ouais. Le président du groupe des Républicains, il s'appelle Christian Jacob, prends cet exemple. C'est-à-dire, ils sont à la place de Barrès, Jaurès, Clémenceau. Attends, les mecs, je vous dis pas. C'est rien. C'est d'une médiocrité. C'est mais affligeant, vous dites. Bon. Et c'est une question. C'est pourquoi on a inventé un système qui tend à la promotion des plus médiocres. Voilà.
Oui, mais enfin, après tout, si vous aviez voulu vraiment concrétiser vos idées et reprendre le grand style des écrivains politiques, vous n'aviez qu'à vous lancer dans la carrière. Vous avez failli, d'ailleurs, à plusieurs reprises.
Mais c'est très difficile avec le scrutin majoritaire.
Ah oui.
Le scrutin majoritaire, regardez, au Parlement, vous avez eu Victor Hugo, vous avez eu Lamartine, vous avez eu Gensu, vous avez eu Edgar Quinet, vous avez eu Thiers, vous avez eu Tocqueville. Bon, aujourd'hui, vous pouvez me citer un grand philosophe, un grand historien, un grand romancier, un grand scientifique, un grand... Rien. Le scrutin majoritaire promeut celui qui fait le plus de balles de pompier, qui fait le plus de petits vins blancs pour les vieux, qui quitte pas sa circonscription, qui ne vient pas au Parlement, d'ailleurs, d'où l'absentéisme. Et donc, ça ne permet pas la promotion, en effet, de ce qui a fait la gloire du grand parlementarisme.
Voilà. N'empêche que quand Mitterrand vous a proposé de devenir député, vous n'avez pas accepté.
Bon, parce que c'était pas la voie que j'avais choisie. Et d'ailleurs, j'aurais été élu parce que la circonscription qui m'a proposé, le type qui m'a remplacé, était élu en la même. C'est Poprenne, d'ailleurs.
Jean Poprenne. On va écouter une autre opérette que vous aimez. Alors, vraiment, dans les choses oubliées, Jean-François Kahn, malheureusement, là, pour le coup, pas vraiment revenu au goût du jour, c'est Charles Lecoq, Giroflée, Girofla.
Ben, c'est-à-dire, Lecoq, il est quand même connu.
Oui, pour son nom reste, et la fille Madame Angot, oui.
La fille de Madame Angot, qui était un chef-d'œuvre, la fille de Madame Angot. Et puis, parce qu'ils ont, à l'Opéra Comique, ils ont remonté Ali Baba, qui était drôle, qui était formidable, Ali Baba. Mais c'est tout. Moi, par exemple, dans mes échecs, j'ai essayé de convaincre des directeurs de salle de remonter Le Petit Duc, qui est un chef-d'œuvre, Le Petit Duc. Et en particulier musicalement. Tous les airs, on les retient. Bon, ben, je ne suis pas arrivé. Voilà, c'est un échec total. En opéra aussi, c'est pareil. Et là, c'est un opérette de Lecoq qui est complètement oublié. Je suis sûr que les gens ne la connaissent pas et qui est vraiment très, très bonne.
Et c'était Lina Dachary qui chantait le premier air de Giroflée. Après, elle chante celui de Girofla.
Oui, parce que c'est la même.
Puisque c'est la même. Cette opérette de Charles Lecoq, qui se passe d'ailleurs en particulier entre l'Espagne et le pays des morts. Il y a aussi cet Orient.
Parce qu'il y a un méchant mort. Voilà. C'est comme dans... Il se moque un peu d'Othello, d'ailleurs. Il y a un côté comme ça.
Mais quand on voit aujourd'hui, malheureusement, tout ce qui se passe au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, etc., c'est étonnant de voir ce regard sur cet Orient-là qu'avait le théâtre du 19e siècle et les compositeurs.
J'étais, il y a quelques semaines, j'étais à Arcachon,
oui.
Faire une conférence. Et alors, Arcachon, il y a ce qu'on appelle la ville d'hiver, avec des villas qui ont été construites au 19e siècle. Magnifiques, dans des styles. Bon. Et il y avait une villa, et elle s'appelait la villa Giroflée.
Ah oui?
Et je demande pourquoi elle s'appelle la villa Giroflée. Mais il dit, en l'honneur de Giroflée, Girofla. Parce que c'était très célèbre, cette opérette, à l'époque. Ouais. Tout le monde la connaissait. Donc, vous voyez, un exemple de... Et maintenant, on l'a oublié.
Oui, il en reste malheureusement pas grand-chose, même si ça a été connu très longtemps en Angleterre. Et puis voilà, ça a complètement disparu. Est-ce qu'on peut faire à Paris un théâtre national d'opérette? Ça aurait
un sens
pour vous, Jean-François Kahn?
Attendez, j'ai essayé avec Jacques Lang. Pourtant, c'est pas son truc, l'opérette. Hein.
Pas vraiment,
mais,
non.
Mais bon, j'ai surtout essayé avec Tibéri, qui était maire de Paris.
Il a essayé de lancer un projet.
Et à chaque fois, on n'est pas parvenu. L'idée, c'était de reprendre la Gaîté Lyrique. Et d'en faire un théâtre vraiment d'opérette, de qualité.
Mais c'est un peu la même question que celle que vous posez dans votre livre. Pourquoi est-ce qu'on arrive à exprimer des idées, à les faire entendre, et malgré tout, ça ne se traduit pas dans les faits jusqu'à la concrétisation, par exemple.
Parce que c'est comme pour l'opéra, c'est comme pour faire redécouvrir des opéras du 19e oublié, ou que c'est tout ça. Vous avez un lobby anti... au nom de la modernité, etc., qui est terrible, enfin, qui freine, qui bloque.
Le système est toujours plus fort que les idées qui viennent essayer de le contredire.
Absolument.
C'est pourquoi il faut carrément changer de paradigme.
On doit être un des rares pays d'Europe où il n'y a aucun salle dédiée à ce type de musique. Vous imaginez l'Espagne sans... Ah, l'opéra comique. Mais là, c'est comme si en Espagne, il n'y avait aucune salle dédiée à la Zarzuela, par exemple. Ou en Autriche, à l'opérette viennoise. C'est incroyable. Incroyable. Alors que c'est le génie français. Le meilleur de l'opérette, c'est vraiment le meilleur du génie français.
Donc voilà encore un combat qui n'a pas abouti, malheureusement. Mais on va continuer. Alors l'autre, vous disiez, c'est effectivement l'opéra, le grand opéra historique du 19e siècle. Ça, c'est votre autre passion, hein, Jean-François Kahn, depuis toujours.
Alors on a réussi en partie, je ne suis pas le seul.
Aubert, Meyerbeer,
parce que j'ai mené ce combat en partie avec vous, mais avec Duhau, par exemple.
Alain Duhau, bien sûr.
Autres, enfin bref, on y est quand même arrivé. On ne jouait plus du tout. C'était bon. Et depuis, 15 ans, 20 ans, on a remonté, alors plus ou moins bien, ça c'est un autre problème, mais on a remonté la Juive, on a remonté la Mets de Portici, Fra Diabolo, enfin bref, ça commence.
Bon, on les montre rarement dans l'esprit de l'époque.
Bon. Enfin, c'est déjà un progrès, on y remonte. Mais j'ai eu deux échecs terribles. L'un, c'est, il y a un opéra de Meyerbeer qui s'appelle Le Prophète. Je ne considère pas que le Huguenot est un chef-d'œuvre. Il y a de belles choses, il y a des choses très contestables, très lourdes, etc. Robert le Diable, c'est pareil. Le Prophète, c'est formidable. Il y a des longueurs, mais même dans Goulot, il y a des longueurs. Mais d'abord, c'est un opéra d'une modernité incroyable. C'est l'histoire du stalinisme. C'est l'histoire de comment un révolutionnaire qui mobilise le peuple pour une bataille d'émancipation devient lui-même un tyran épouvantable. C'est vraiment l'histoire du stalinisme. Et c'est vraiment un opéra très fort, très moderne, très prenant. Bon. J'ai vraiment beaucoup insisté auprès des directeurs de salle. J'ai essayé de montrer pourquoi il fallait le remonter. Je suis jamais arrivé. Alors vous me direz que c'est lourd en même temps. Je comprends. Il faut trouver le ténor. C'est
voilà,
cher.
La distribution vocale est très compliquée.
Et je crois que ça va se remonter à Bruxelles. Il faudrait que vous vous renseigniez. Bon. Et l'autre échec, c'est que j'ai essayé de faire remonter la Mets de Portici à Bruxelles. Vous savez que la Mets de Portici de Aubert, en 1830, a provoqué la Révolution belge. C'est-à-dire, ils ont repris l'air, le fameux air de la patrie, là.
Amour sacré de la patrie.
Bon, et ils ont fait la Révolution. Et donc, je voulais qu'on remonte cet opéra à Bruxelles. Là, je suis pas arrivé, d'abord parce que l'opéra de Liège et de Bruxelles n'ont jamais réussi à se mettre d'accord, mais aussi parce que les Flamands s'y ont opposé. Les Flamands ont fait une opposition terrible. Pour des raisons politiques. Donc j'ai échoué là aussi.
Bon, alors là, pour l'instant, on va d'abord revenir à Meyerbeer avec Alors, un autre ouvrage, d'ailleurs, aussi oublié que les précédents, L'Africaine.
Il a écrit beaucoup, hein, Meyerbeer. Ouais. En particulier, beaucoup d'œuvres en allemand, beaucoup d'œuvres italiennes, oui, à la façon de Bellini, Donizetti.
Il faut dire qu'on est dans une époque très wagnérienne et que Wagner détestait Meyerbeer. Alors,
parce qu'il était juif, par antisémitisme, en grande partie par antisémitisme. Alors que Meyerbeer a fait beaucoup pour Wagner, hein, beaucoup. Il est, les deux, il y a vraiment deux grandes œuvres de Meyerbeer qui méritent d'être découvertes.
Le Prophète.
Le Prophète, et la dernière, qui est L'Africaine. Qui est l'histoire de Vasco de Gama. Et vraiment, c'est également une œuvre très originale, très moderne, hein, ouais. Et avec un air très connu, qui est au Paradisio, qui est vraiment...
Voilà, heureusement, il reste des airs isolés comme ça, c'est comme pour la juive, que les chanteurs continuent à chanter à travers les âges et qui font que les opéras restent un petit peu dans les mémoires.
Absolument.
Luciano Pavarotti dans L'Africaine de Meyerbeer, la version italienne, mais beaucoup d'opéras français qui ont été finalement conservés en version italienne.
Enfin, il dit, tu peux m'appartienne quand même. Tu
oui, 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 c'est vrai. Notamment les opéras de Verdi qu'on joue plus souvent en italien, même quand ils ont été conçus en français.
C'est quand même incroyable, entre
oui,
nous.
Ça vous choque?
Oh bah attendez.
Don Carlos.
Il écrit en français et on le joue en France et on fait en sorte qu'on comprenne pas. Parce que en plus il y a cette idée là. Hein.
Il
faut surtout pas comprendre pour que ça soit de la musique pure. Oui, d'accord. Sauf que un opéra, il fallait comprendre. Il y avait un rapport quand même, une histoire, un drame, une angoisse, une attente de la musique. Ah bah non.
C'est compliqué parce que j'ai entendu ça, Jean-François Kahn, encore récemment, d'un ami mélomane qui me disait qu'il avait du mal à écouter des mélodies françaises parce qu'il comprenait les paroles et que ça lui gâchait le plaisir de la musique.
Il y a un cas où je le comprends et d'ailleurs on le joue en français. C'est par exemple Gounod. Que les paroles sont tellement stupides. Oh, lève-toi, soleil, astre pur et charmant. Non, c'est impossible, c'est inouï. Bon, là, j'admets. Mais, je sais pas, beaucoup d'opéras, les paroles, quand même, il faut les entendre, il faut écouter de quoi on parle, le drame, qu'est-ce qui suscite cette crainte, cette peur, cette angoisse, vous voyez, sans quoi c'est absurde.
Et les paroles de Francis Lopez par Raymond Vincy, ça vous plaît aussi?
Alors là!
On va encore se faire des ennemis parce que les auditeurs n'aiment pas qu'on critique, hein. Dans votre livre, d'ailleurs, vous comparez François Mitterrand et Hollande, vous dites que c'est comme Mozart et Francis Lopez, à peu près, l'équivalent, hein, dans l'échelle de valeur. Vous n'êtes pas un grand lopézien, mais vous vous êtes battu beaucoup pour l'opérette et pour la musique, Jean-François Kahn, je le rappelle, donc à l'antenne d'Europe 1, notamment, où vous avez fini par partir parce que vous passiez des musiques de Mozart ou de Léo Ferré, qui n'étaient pas dans la playlist.
Je faisais un journal et un éditorial. Ouais. Et à un moment, j'ai profité d'une crise pour faire un petit coup d'État et de choisir le disque qui suivait mon éditorial.
Ouais. Et donc, ça se fait pas, hein, sur les radios.
Je faisais un peu du Mozart, je pouvais lui offrir. Attendez, au bout de 6 mois, ils ont dit, ah non, ça décrédibilise le reste de l'antenne. Je me souviendrai toujours de cette phrase. Mozart décrédibilise le reste de l'antenne. Mais j'ai surtout fait sur France Inter une émission qui s'appelait Avec tambour et trompette.
Avec tambour et trompette. Ça a été la principale émission de chanson que vous avez faite. Voilà. Puis il y a eu la télévision aussi.
Chantez-le-moi.
Ouais. Vous en ferez peut-être un jour des émissions sur la musique ? Non, c'est fini.
Je vais vers les 100 ans, vous savez.
Oh ! On peut dire l'année de votre naissance, Jean-François Kahn. Hein, juste avant la guerre, quoi.
38,
voilà.
Voilà. Unique.
Même pas 80. De nos jours, vous êtes encore un jeune homme. Une petite parenthèse, tiens, on parlait d'opéra à l'instant. Vous n'êtes pas complètement étranger au projet. À mon avis, ça ne fait pas partie de vos réussites, plutôt de vos échecs, de l'Opéra Bastille.
Bah, c'est-à-dire, oui. C'est-à-dire, un jour, quand Mitterrand a été élu, en 81, il a invité un certain nombre de gens à déjeuner à l'Élysée, donc j'étais invité, et j'ai plaidé devant lui pour dire, attends, c'est absurde, il y a un intérêt de plus en plus considérable pour l'opéra, on est un seul pays du monde, on a une seule salle d'opéra, une seule. Pour avoir des places, c'est extrêmement compliqué, c'est cher, c'est élitiste, faites au moins 2 salles, une salle avec Garnier, une salle plus populaire, on jouerait d'ailleurs les œuvres en français, enfin, avec des places meilleures marché.
C'était ça votre idée,
c'était
une vraie salle populaire avec des œuvres en français.
Donc, je reçois 15 jours après un coup de téléphone de Jacques Lang, ministre de la Culture, il dit, écoute, faut que je te dise, le président a été très frappé par ce que tu lui as dit, il a décidé qu'on va le faire. Très bien. Et en effet, sans arrêt, on dit, ça y est, on l'a fait, on va lancer, etc. Bref, donc, ils le font. Mais sauf que c'est le contraire de ce que
vous vouliez.
Que ce que j'avais préconisé.
On n'a pas de répertoire français, on chante pas en français, c'est pas vraiment populaire.
Et c'est cher.
Et c'est cher, c'est l'Opéra Bastille, enfin bon, ça a beaucoup de qualité
En revanche, c'est ce qui a permis un basculement de Paris vers l'Est.
Voilà.
Ça a complètement changé la sociologie parisienne, et ça, c'est positif.
Alors, on va écouter encore, avant de se quitter, Jean-François Kahn, un morceau que vous adorez. Alors là, c'est entre l'opéra et l'opérette. On a dit, il y a l'opéra comique. Oui. Et là, il s'agit de Boyer le Dieu, un peu revenu de temps en temps à l'affiche avec La Dame Blanche, mais il y a beaucoup d'autres œuvres.
La Dame Blanche, c'est un opéra parfait, un opéra comique parfait. Ouais. C'est formidable, absolument formidable, la Dame Blanche comme opéra comique. Non, parce que je trouve qu'il y a 2 exemples dans l'opéra comique français, qu'on ne joue pas assez, qui est de variation.
Ouais.
Il y en a une qui est un très très beau opéra comique qui s'appelle Le Toréador.
Alors ça, on l'avait déjà passé, voilà. C'est une merveille, les variations
de Adam,
sur Ah, vous dirais-je maman.
Les variations sur vous dirais-je maman, d'autant plus que Mozart lui-même a fait des variations sur Ah, vous dirais-je maman.
Pour le piano, absolument.
Pour le piano. Et donc, c'est vraiment une réussite. Et l'autre, qui est moins connu, qui n'est même pas connu
beaucoup
du tout,
moins connu,
pour dire la vérité, c'est Boyer le Dieu, un opéra qu'il avait fait à la Dame Blanche et qui est des variations sur Au clair de la lune.
Voilà. Et c'est tiré donc de cet opéra comique que j'aimerais bien voir un jour, qui s'appelle Les voitures versées.
Voilà.
On l'écoute tout de suite.
Thank you. j'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu. Attendez mes portes, j'ai plus de feu. Ouvre-moi ta porte, pour l'amour de Dieu.
Denise Boursin et Médonia dans ces très jolies variations.
Hein.
Ah, merci Jean-François Kahn de nous faire entendre ce morceau sur Au cœur de la lune. Mi-italien, mi-français
oui,
dans
oui,
les paroles.
Oui, absolument.
Hein. Tiré de ces voitures versées sous la direction
mais Bizet
de Jean Brébion.
Bizet a écrit un opéra comique en italien.
Et également, absolument. Hein. Sauf que les voitures versées, c'est en français. Hein. Il y a juste cette terre qui est en italien. Mais au fond, alors Jean-François Kahn, bon, on va bientôt se quitter. On va conclure avec vos réflexions sur mon échec paru aux éditions de l'Aube. Malgré tout, est-ce que finalement, c'est quand même la réalité qui a raison au bout du compte dans l'histoire. C'est les vainqueurs qui inscrivent leur vérité. Alors, si les causes pour lesquelles on se bat n'aboutissent pas, finalement, c'est peut-être ceux qui ont défendu les causes dominantes qui resteront comme les grands triomphateurs.
Non, je pense que je vous le dis à la fin. Si ce qu'on dit est vrai,
ouais.
ou si ce qu'on essaye de défendre est juste, si le problème n'est pas c'est moderne, c'est pas moderne, c'est de gauche, c'est de droite, mais c'est vrai, c'est pas vrai, c'est juste, c'est pas juste, c'est efficace, c'est pas efficace, c'est nécessaire, c'est pas nécessaire, à ce moment-là, bien sûr que ce qui est efficace, nécessaire, juste, vrai, etc., finira par s'imposer. Le problème, c'est qu'on ne sera pas forcément là.
Le chemin est très très long, pour l'opérette et pour l'opéra comique.
Pour le découvrir.
Et pour Meyerbeer. On est encore loin du but.
Non, mais là, encore une fois, c'est avancé. On a réussi, là, un certain nombre de choses. C'est dans le domaine journalistique et dans le domaine politique, là, c'est plus coton.
Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez fonder un nouveau journal?
Non.
Non? Sûr?
J'ai plus l'âge.
Ah bon? Vraiment? Bon. Vous allez écrire des livres?
J'écris des livres.
D'autres, oui.
Vous savez, je suis en train de faire un truc absolument fou.
Oui.
Hein, mais quand je dis fou, je suis en train d'écrire une contre-encyclopédie.
Ah, voilà. Mais contre ceux du XVIIIe siècle ?
Non, qui ne dit pas forcément ce qu'on lit d'habitude dans les encyclopédies.
Bon, ben voilà un beau projet, Jean-François Kahn. Et on va se quitter avec quelqu'un qui, heureusement, alors n'a pas trop besoin de nous, parce que finalement, il s'en sort toujours à travers les époques, à travers les modes, c'est Jacques Offenbach.
Oui, et encore, il y a beaucoup de choses d'Offenbach, longtemps qu'on ne jouait plus. Maintenant, on redécouvre à peu près tout. Et d'ailleurs, entre parenthèses, il y a des troupes qui jouent du Offenbach, c'est redevenu
partout,
à la mode.
Tout le temps, les Anacles, les Trois Actes.
Mais quelquefois avec des gens qui ne savent pas chanter, tout simplement. Hein?
C'est
mais
vrai.
C'est incroyable. J'ai assisté à des trucs, mais incroyables. Enfin, bref.
Le trio italien de Monsieur Choufleury.
Oui, parce que c'est un des aspects formidables d'Offenbach, mais je crois que personne n'a fait mieux, c'est l'imitation du grand opéra.
Voilà.
Parce qu'il était capable d'écrire un grand opéra. Il l'a montré d'ailleurs. Il a même écrit un opéra presque pré-wagnérien sur les filles du Rhin, ou je sais pas
quoi.
Oui,
bien sûr.
Et là, il imite, complètement il imite, je sais pas si Rossini ou Bellini.
C'est un mélange de tout d'ailleurs, tous leurs noms défilent dans les
Ordi,
paroles.
Donc c'est un duo.
Wagnerie, Auberry.
C'est une fille. Il y a le père, c'est la fille qui essaye de convaincre son père qu'elle doit épouser le type dont elle est fiancée. Mais pour ça, ils ont pris la place de chanteurs d'opéra qui sont pas venus, qui ont fait faux bond. Et donc, ils chantent, ils sont déguisés dans ces chanteurs et chanteuses d'opéra, mais ils en profitent pour interpeller leur père pour qu'il permet qu'ils se marient. Je ne sais pas si vous avez suivi.
Pour moi qui connais cet opéra, en tout cas, c'est très clair et on va l'écouter tout de suite pour se quitter. Merci Jean-François Kahn d'avoir été avec nous ce matin.
C'est un plaisir.
Ce monsieur Choufleury, depuis le temps qu'il a quitté la salle, il devrait être prêt.
Oh, le voici. Il lui a fallu le temps de s'habiller.
Yeso le padre crudele
terribile
inexorabile. sole patrie crudele, terribile, inexorabile. Ie sole patrie crudele, terribile, inexorabile.
Seulement l'inimico de la patrie.
Qu'êtes-vous donc encore ?
Je suis Chrysodule.
Chrysodule, vous, celui qui veut...
Épouser mademoiselle Ernestine, et vous allez me la donner.
Non, jamais, jamais, c'est un guet-apens. Ernestine, qu'as-tu fait là ?
Mais parlez donc italien, il vous écoute.
Ah, c'est vrai. Ernestina, qu'avait-elle fait là ? Introduro, inaltregero, maledizionno, melissana.
Il va maudire sa fille.
Soyez maudit.
Mais parlez donc italien.
Ah, c'est vrai. Soyez mauditi, maudito, mauditata.
Mio padre, mio padre, parce que vous savez de plus sacré, je vous congerai. Mio papa, apieta, apieta pour votre figlia.
Mio padre, parce que vous avez des plus sacrés et vous congerai. Mio papa, donatemi votre figlia.
Mio padre,
patati,
mio padre,
patata,
mio padre,
patati,
mio padre,
patata,
patati.
André Balbon, Joseph Perron et Claudine Collard dans ce trio italien de Monsieur Choufleury, un chef-d'œuvre d'Offenbach enregistré en octobre 1956 par l'Orchestre Radio Lyrique sous la direction de Marcel Cariven. Vous l'avez compris, c'était un choix de mon invité Jean-François Kahn et je vous invite à lire son dernier livre « Réflexions sur mon échec » paru aux éditions de l'Aube.
Thank you. la 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 la.
Un trésor de la musique de studio, c'était les fantaisies d'André Pop. Vous savez, le grand André Pop que j'avais reçu dans cette émission. Extrait de son disque Elsa Popigne et sa musique sidérante. C'était la polka du colonel en 1957.
Benoît Dutertre. Étonnez-moi Benoît. France Musique.
Et pour terminer, comme promis, nous allons retrouver la voix de Léo Marjan qui nous a quitté le 18 décembre dernier, âgé de 104 ans. Léo Marjan, que j'avais eu la joie de rencontrer pour ses 100 ans en août 2012. Nous étions allés avec Martin Péné à Barbizon afin de lui poser quelques questions sur cette extraordinaire carrière. Et c'est une femme alerte qui nous avait reçus devant sa maison en pleine forêt avec laquelle nous avions remonté le temps. Je vous propose donc de la retrouver maintenant en commençant par ses souvenirs d'un très très grand chef d'orchestre qu'il avait accompagné à ses débuts, Valberg.
Eh bien, c'était assez curieux. J'arrive pour enregistrer et je lui demande de faire jouer l'orchestre. Il y avait un très bel orchestre. À l'époque, on avait des orchestres pour enregistrer. Il me dit « ça vous plaît ?» J'ai dit « oui, mais les violons ne sont pas à leur place. » Il me regarde comme si j'avais été un phénomène. Puis « qu'est-ce que vous voulez dire par là ?» Je dis « il faut les mettre derrière. » On les met derrière et il me dit « mais comment vous pouvez savoir ça ?» Ah, je dis « parce que j'ai de l'oreille. » Alors il me dit « vous avez raison. » J'avais le sens du son.
Et on peut dire que c'est devenu un ami, Valberg ?
Oh oui, ouais. Je l'adorais, mon Dieu, quel ami. C'était pas toujours apprécié par sa femme. Hein.
Et pourtant, c'était en tout bien, tout honneur, n'est-ce pas ?
Oh oui, oh, ça oui, alors, ça vraiment oui. Mais c'était un homme merveilleux et qui avait un sens de la musique. J'ai des disques que j'ai fait avec lui, là. Ah, oui. Je me dis, quel musicien !
Il orchestrait tout d'une façon merveilleuse.
Oh oui, c'était formidable.
Le sens de la couleur. Vous avez quand même travaillé, il faut dire aussi, on pourrait les évoquer parce que il y a eu quelques autres grands chefs d'orchestre. Je crois même que vous avez enregistré avec un grand chef anglais qui s'appelait Ambrose.
Oui, bien sûr.
Qui était un des grands musiciens de musique légère anglaise aussi.
Absolument.
Oui,
oui, oui.
Et puis Raymond Legrand.
Ah ben Raymond était, oui. Ah ben à l'époque, il était plus intéressé par Irène de Trébert que par moi.
D'accord. Oui, c'était la chanteuse de l'orchestre quasiment.
Oui, absolument. Elle faisait des claquettes, je me souviens. Et elle était charmante d'ailleurs.
Mais vous aviez de l'admiration pour le métier de Raymond Legrand comme pour celui de Valberg ?
C'était pas du tout la même façon de voir la musique, pas du tout. Il y avait moins de symphonie. Valberg était symphonique. Ouais. Legrand était, je ne sais pas quoi dire.
Et justement, encore une question, on a parlé d'Irène de Trébert, parce qu'au fond, tout ça, c'est votre génération, et vous avez repris beaucoup de chansons américaines, mais qu'est-ce que vous pensiez de toute cette vogue de la chanson swing, zazou, etc. Vous aimiez ça ou pas, vous ?
Oh, horrible et mauvaise.
Vous n'aimiez pas ça ?
Pas du tout. C'est clair.
Non, parce que ça a marché à l'époque, hein, les
bah cette oui, vogue-là. Mais ouais. Pas avec moi en tous les cas. Non,
c'est vrai. Oui. Vous étiez plus dans les demi-teintes en fait, c'est ça qui vous intéressait.
Non, moi je suis restée dans la vraie musique, d'autres ont fait autre chose.
Oui, mais aussi que malgré tout, vous avez travaillé avec des musiciens de jazz, je pense à Django Reinhardt par exemple.
Ah, oui.
Quand même.
Oui, ah ben, Django était mes premiers musiciens. J'avais le trio. Il y avait Django, il y avait Grappelli qui était un grand musicien, un merveilleux ami. Ils ont débuté avec moi et moi avec eux.
Garçon, je voudrais une table. L'après du jazz, c'est plus agréable. Cigarette et whisky pour chasser mon souci. Ce soir, je voudrais oublier. Music, maestro, please. Ce soir, je voudrais éloigner ce qui subsiste dans mon cœur triste. Chef, voulez-vous me jouer quelque quelques airs légers, de vieux refrains, tout ce qui pourrait bien dissiper mon chagrin. Il aimait les valses, alors n'en jouez pas, car je vais croire qu'il est toujours là entre mes bras. Ce soir, je veux que mon cœur lourd oublie et se grise. Adieu mes souvenirs d'amour. Music, maestro, please. Je vois des gens heureux qui dansent et des amants fiévreux d'espérance. L'image du bonheur ravive ma douleur. Ce soir, je croyais oublier. Music, maestro, please. Ce soir, je ne puis éloigner ce qui subsiste dans mon cœur triste. Chef, jouez encore cet air, car dans un éclair, je le revois comme mon jour d'autrefois, assis près de moi. Ce n'est pas un rêve, sa main serre ma main. Est-ce possible? Tu me reviens et tu m'étreins. Ce soir, je voulais oublier, mais tu m'as reprise. Chérie, je t'en prie, viens danser. Music, maestro, please.
Et tout ce succès avant la guerre, ça vous a enivré, ça vous est monté à la tête?
Non, jamais. Vous savez, le succès, ça dure quelques minutes. Une carrière, ça dure longtemps.
Vous meniez la grande vie, puisque vous
étiez
une vedette.
Oh non, pas du tout. Moi, en dehors des chevaux, je ne menais pas de grande vie du tout. J'avais mes chevaux, je me levais à 6 heures du matin pour pouvoir les monter, et c'est tout. Je n'ai jamais été... J'ai pas été très artiste dans le milieu, non. J'étais attirée par les chevaux, et en dehors de ça, j'avais une vie très, très, comment dirais-je, très bourgeoise.
En tout cas, vous avez vraiment été, grâce à ces premiers enregistrements de chez Gramophone de la fin des années 30, vous avez été la révélation, on peut le dire, de l'année 1938. Et vous avez commencé à faire du music-hall, alors qu'au départ, ça ne vous plaisait peut-être pas tant que ça.
Hein. Et on me disait, si vous arrivez à passer à l'européen, alors vous passerez partout.
C'était un test.
Ah oui, si on ne se faisait pas siffler et sortir là-bas, on était bon.
Alors, quelles étaient vos salles préférées? Donc, il y avait l'Européen, Bobino, l'ABC.
Ah ben, c'était ce qu'on faisait. Oui. L'ABC, c'était la consécration. Je me souviens que je débutais quand même. Quand j'ai vu mon nom en grand devant l'ABC, j'ai dit, c'est moi ça. Ça faisait de l'effet à l'époque. Maintenant, on n'en parle plus.
Et est-ce que vous aviez des chanteuses dont vous vous sentiez proche à cette époque-là, sur le plan artistique?
J'aimais bien une femme qui chantait, Lise Gouty. Elle était élégante, et ça me plaisait.
Elle avait un répertoire choisi, en plus.
Oui, oui. Et puis, j'ai connu, mais je ne l'ai pas connue vraiment elle-même, mais j'étais à la boîte à sardines en Centre Fréhel. Ouais. Elle existait encore.
On dit que vous aimiez bien Lucienne Boyer aussi.
Oh, je l'adorais. Je l'adorais. Lucienne Boyer était... Cette robe bleue qui entrait sous ce projecteur, elle était tellement fine, tellement jolie. Elle m'a donné envie de faire de la scène.
Et vous-même, qu'est-ce que vous portiez comme tenue sur scène?
J'étais toujours en blanc parce que Jeanne Lanvin m'avait dit « Habille-toi en blanc, le blanc te va très bien ». Alors je me suis habillée en blanc et je suis restée en blanc très longtemps. Mmh. Jusqu'à une fois en Amérique, c'était Nina Ricci qui m'expédiait mes robes là-bas. Et elle n'arrivait jamais à l'heure. Alors j'ai été obligée de changer de couleur parce que l'avion n'arrivait jamais comme il fallait. Alors j'avais pas de robe.
Donc vous chantez au music hall, mais vous chantez aussi au cabaret. C'est à l'époque où on vous voit au Scheherazade.
C'était merveilleux, vous savez, de chanter à Scheherazade. J'y allais avec un plaisir extraordinaire. Il y avait des abonnés. Il y avait à l'époque, comment ça s'appelle, le couple royal qui est devenu royal maintenant.
Le duc de Windsor et
exactement. Son épouse, oui. Ils étaient devenus mes amis. Et on s'est retrouvés à New York. Et c'était assez drôle parce que on s'est retrouvés à New York et il y avait un Français qui donnait toujours de grands dîners, de grandes soirées. Et on me dit, you have to be there. Alors j'ai dit, mais pourquoi? Parce qu'il y a celui qui avait écrit Begin the Begin qui va être là.
Cole Porter.
Pour Cole Porter, j'ai dit, bon, je viens.
Qu'est-ce que ça avait de magique cet endroit, le Scheherazade?
C'était les tziganes.
Oui.
Tziganes, tziganes, qui ça a toujours été ma passion, ça.
Ouais.
Alors j'adorais chanter là. Et le public était remarquable. Il revenait quelquefois 3-4 soirs de suite, ce qui était étonnant. Je me disais, ils vont se lasser de moi quand même, non? C'était extraordinaire.
Mais vous avez des attaches avec cette ambiance tzigane, avec, j'ai presque envie de dire avec le monde slave, oui.
Ah oui, je suis un peu slave. Cette voix, c'est la voix des Slaves, ça. Et c'est quand même un peuple qui aime la musique et qui sait interpréter, il n'y a pas de doute. On a ça dans le sang, on ne l'apprend pas.
Il y a un cabaret que vous avez quand même animé pendant un certain temps, qui s'appelait L'Écrin, qui était Rue Joubert.
Et ça, c'était à moi.
C'est intéressant qu'on raconte l'ambiance, c'est-à-dire comment était décoré ce cabaret, ce que vous y chantiez.
Ça s'appelait L'Écrin, vous pouvez imaginer le reste. Et c'était très joli d'ailleurs, mais c'était mal situé. On a dit qu'il y avait des Allemands. Ben, je ne pouvais pas empêcher les Allemands d'entrer.
C'est
eux qui dirigeaient Paris. Mais il y avait de tout, il y avait de tout. Puis vous savez, quand on veut dire du mal de quelqu'un, on trouve toujours le moyen. Hein.
Mais...
comme j'étais connue, célèbre, il était inévitable que j'aie beaucoup d'ennemis.
Mais d'ailleurs, vous n'avez pas fait partie des voyages officiels des artistes français en Allemagne.
Non,
vous n'êtes pas
on m'a dit que je devais y aller, mais moi, je n'ai pas voulu y aller.
Et pareil, la seule radio où on pouvait se produire à l'époque, c'était Radio Paris. Donc, vous y êtes allé comme les autres.
C'était là, ça ou rien.
Et Raymond Legrand, précisément, avec qui vous faisiez vos disques, lui, il était quasiment attitré.
Oui, absolument. Il y a tant de choses qu'on a dit sur cette époque. Tout le monde en parle et personne n'en sait rien. C'est ça qui est curieux.
Mais
parce qu'il faut l'avoir vécu pour savoir comment ça se passait.
Alors, précisément, puisque vous l'avez vécu, qu'est-ce que vous en retenez? Comment on peut décrire ces 4 années qui étaient quand même assez...
J'en retiens que les Français ont peut-être eu honte d'eux-mêmes, alors ils ont sali les autres, mais il y a beaucoup de choses pas vraies dans tout ça. Hein. Ils ont beaucoup inventé. Les gens qui étaient sur le devant de la scène devaient payer pour ceux qui faisaient du marché noir. Alors, comme on était en vue du public, on se vengeait sur les artistes. Quand je pense que Sacha Guitry, on l'a accusé de mort, c'est incroyable. C'était un grand ami à moi, Sacha.
Ah bon? Vous l'aviez
oui,
bien
oui,
connu
nous
avant
étions très amis.
Ah oui,
vous savez, quand on se téléphonait, quand je raccrochais, j'avais l'impression d'avoir joué une pièce. Il vous donnait du talent.
Exactement.
Il vous donnait du talent, cet homme-là. Et c'était un homme charmant, tellement galant, tellement...
Comment vous l'aviez rencontré?
Eh bien, je ne sais plus très bien, je crois que c'est... Non, je chantais chez Carrère, rue Pierre Charron. Il venait tous les soirs, accompagné par qui d'ailleurs?
Vous êtes Geneviève Guitry à l'époque, non?
Exact, avec oui. Geneviève, avec oui. Geneviève. Il venait avec Geneviève. Ouais. Et Marlène Dietrich venait avec Gabin.
Oui.
Elle était elle. Alors, Gabin sortait, il sifflait et Marlène arrivait en courant. Pourtant vrai, tout ça. Et il y avait Chevalier qui me cassait les pieds tous les jours. Il voulait m'épouser. Non, mais vrai, je ne l'aimais pas en plus de ça.
C'est oui. Bien, on apprend des choses là, c'est formidable.
Ouais, il y avait quelque chose qui me déplaisait en lui. Il était, je ne sais pas. Enfin, on ne sait pas pourquoi les gens vous plaisent ou vous déplaisent.
Mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur.
J'ai vendu mon âme au diable. Mon pouvoir est formidable, mais mon cœur depuis des jours pour agace meurt d'amour. Un jour passant dans la campagne, vers moi pensif, il est arrivé. Des yeux à faire abattre les montagnes, des épaules qui vous font rêver. J'ai vendu mon âme au diable, mon pouvoir est formidable. Sans effort, je fais un vœu et j'ai tout ce que je veux. Je n'ai pas pu pourtant garder pour moi le cœur du gars que j'aime tant. Une autre a pris tout mon bonheur. J'ai vendu mon âme au diable. Mon pouvoir est formidable, mais le diable est sans secours pour le jour contre l'amour. Mais le diable est sans secours pour le jour contre
L'âme au diable, une chanson de Loulou Gastet et Jacques Larue, enregistrée le 8 juillet 1943 avec l'orchestre de Raymond Legrand. Et salut donc, merci encore à Léo Marjane qui vient de nous quitter à l'âge de 104 ans. Ainsi s'achève Étonnez-moi Benoît, une émission de Benoît Dutertre préparée par Annie Comier avec aujourd'hui à la technique Pierre Mine et Julien Douminc, réalisation Christine Amado. On se retrouve la semaine prochaine pour un spécial Rudy Irigoyen avec Sylviane Irigoyen et Fabien Attias. Bon week-end à tous.